On est heureux de pouvoir se retrouver. Merci pour ces chants qui, je crois, préparent nos cœurs au message, à la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir le Saint-Livre. On va faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 3. Luc 3, et nous lisons à partir du verset 2. Il est écrit « Du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de repentance. » Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Amen. » C'est le début du ministère de Jean-Baptiste, nous l'avons lu. C'était un personnage particulier. Je ne sais pas si aujourd'hui on aurait aimé le rencontrer, on aurait aimé rester avec lui. Sa nourriture était bizarre, ses vêtements étaient bizarres aussi, le lieu où il exerçait était pas un lieu qui était très avenant, le désert. Toutefois, et c'est ce que nous avons lu au début, la prophétie d'Ésaïe, ce que le prophète avait annoncé, prophétisé, c'est lui qui préparait le chemin pour Jésus-Christ. Et au travers de tout ce qu'il va dire, bien sûr, il est question du baptême de repentance. Alors, bien évidemment, ce baptême-là n'a rien à voir avec le baptême qui a été exercé par les apôtres, le baptême que nous pratiquons aujourd'hui. C'était des choses qui étaient différentes. Mais au travers de ce baptême de repentance, il invitait les personnes à manifester leur envie, leur positionnement de changer de vie, de changer leur habitude pour se conformer à ce que Dieu voulait et ainsi recevoir le pardon de leurs péchés. Et dans ces quelques versets que nous avons lus, nous voyons que les personnes qui étaient là étaient des personnes qui étaient de différents horizons. La parole nous fait part qu'il y avait une foule, il y avait les publicains, il y avait les soldats, des personnes que rien ne rassemblait, des personnes qui n'avaient rien en commun, des personnes qui peut-être avant même ne se seraient jamais rencontrées. Et c'est le cas de l'Église aujourd'hui. L'Église rassemble des personnes qui ne se seraient jamais unies en dehors de la cause de Christ. Mais dans ce texte, ce qu'il y a de frappant, et peut-être vous l'avez remarqué déjà, c'est que ces personnes, alors qu'elles viennent d'un horizon différent, d'une classe différente, ces personnes qui avaient l'habitude de faire des choses différentes dans leur quotidien, lorsqu'elles vont écouter le message de Jean-Baptiste, lorsqu'elles vont être confrontées à cette idée que finalement, il y a autre chose que la loi, que peut-être que le comportement peut avoir à faire quelque chose avec Dieu, lorsque ces personnes vont entendre cela, elles vont dire toutes les trois, ou ces catégories de personnes, vous l'aurez compris, vont dire toutes les trois la même chose. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais il y a de ça 2000 ans que ces personnes ont posé cette question. Les siècles ont passé, les choses ont quelque peu évolué, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, le cœur de l'homme, lui, n'a pas vraiment évolué parce que c'est une question qu'on peut encore se poser aujourd'hui et ce soir. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre Dieu ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la paix, pour avoir l'espérance, pour avoir la joie ? Si du moins il faut faire quelque chose, et c'est ce que nous allons voir ce soir quand même. On pourrait être tenté, lorsque nous méditons sur ces quelques versets, ce que nous sommes en train de faire, lorsque je suis en train de vous dire, voilà le point commun en dehors de leur situation géographique de ces catégories de personnes, ce qu'ils ont rassemblé c'est cette question, mais on pourrait se dire, mais finalement, et même arriver à penser, à dire, à proclamer que ça ne nous concerne pas. Et Jean-Baptiste le savait très bien. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste va avoir cette délicatesse de dire cela. Je ne parle pas de lorsqu'il va leur dire « race de vipère », mais lorsqu'il va dire « juste après ». Parce que dans cette phrase, on voit que Jean-Baptiste est en train de mettre les bases. On voit qu'il est en train de mettre le cadre de réflexion pour ces personnes, parce que l'Évangile, ça doit nous amener à une réflexion. Ça doit nous amener, au-delà de nous poser des questions, ça doit quand même nous amener à trouver des réponses. Parce que si on était dans des perpétuels questionnements, vous comprendrez bien que ce soir, on aurait du mal à chanter « Ils le menèrent comme un brigand au calvaire ». En parlant du sang de Jésus qui purifie. Si nous-mêmes, on était dans des questionnements en disant « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» ce serait impossible qu'on ait l'assurance. Une assurance. Et Jean-Baptiste est en train de le dire, de leur dire, et peut-être c'est quelque chose qu'il est en train de dire ce soir à quelqu'un. Ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Elle est surprenante, cette phrase. C'est pas le thème de mon message, mais quand même, c'est surprenant la manière dont Jean-Baptiste va dire cela. Ne vous mettez pas à penser en vous-même que vous allez pouvoir vous en sortir, que vous allez pouvoir échapper à cette question, que vous allez pouvoir échapper à une quelconque réflexion, parce que vous vous dites en vous-même que vous avez Abraham pour père. Alors pour nous, qu'est-ce que ça peut signifier ce soir ? Qu'on a une connaissance religieuse, qu'on a une certaine connaissance biblique, qu'on a été éduqué et que ça nous suffit, que finalement on n'a pas besoin de se poser cette question « que devons-nous faire ?» puisque ça concerne que certaines personnes, ça concerne que ceux qui sont prédisposés à une sensibilité spirituelle. C'est pas ça. Ne vous mettez pas, ne vous imaginez pas cela. Et une fois que Jean-Baptiste a posé le cadre, ça nous permet à nous, au travers de ce cadre, d'évoluer dans cette réflexion. Parce que lorsque nous lisons cela, que devons-nous donc faire, maître, c'est les trois questions. On peut se poser cette question, est-ce qu'on a le salut par nos œuvres ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose finalement pour être sauvé ? On peut se poser la question, puisque c'est cette question qu'ils vont poser à Jean-Baptiste. On sait très bien que dans les Éphésiens, il est là, c'est un verset extraordinaire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors est-ce que la parole de Dieu se contredit ? D'un côté, des personnes demandent ce qu'ils doivent faire pour ne pas être jeté au feu à un moment donné. On pourrait comprendre ces textes dans le sens de qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aille au paradis, pour que je sois avec Dieu. Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que je n'aille pas en enfer ? Jean-Baptiste va répondre. Et les réponses qu'il va donner, on comprend que c'est pour les faire réfléchir. Et ce soir, nous, on doit réfléchir à ces choses. Parce que c'est ça qui est important. Au fait, où est-ce que je vais ? Mais au fait, lorsque je lis ces textes, si Jean a préparé la venue de Jésus-Christ, est-ce que dans mon cœur, je prépare sa venue ? Est-ce que dans mon cœur, je m'interroge sur qui est Jésus-Christ ? Sur où est-ce que je suis ? Est-ce que je crois que finalement, puisque c'est par grâce que je suis sauvé, que finalement tout le monde est sauvé, que je n'ai besoin de rien faire ? Parce que quand même, cette question laisse cela en suspens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? D'un côté, on dit que c'est par grâce. Alors ça sous-entend que finalement, c'est pas à nous. Ça vient pas de nous. Mais d'un autre, quand même, on voit dans la parole de Dieu certaines choses. Tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde peut avoir accès au salut, ça c'est sûr. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est pour tout le monde. Mais tous ne vont pas parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Le psalmiste pourra dire, psaume 34, verset 5, un psaume qu'on connaît, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il faut quand même chercher. Que devons-nous faire ? C'est une question. Si tout à l'heure, vous croisez une personne dans la rue, vous lui parlez qu'il faut changer de vie, qu'il faut être réconcilié avec Dieu, et qu'il vous pose cette question, mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que vous allez lui dire, mais tu dois marcher à pied de Toulouse à Paris, et quand tu arrives à Paris, tu es sauvé ? Est-ce que vous allez lui dire qu'il faut qu'il s'inscrive dans des associations pour faire pour aider pour des personnes démunies? On peut le faire, bien sûr, mais et vous allez lui dire qu'au bout d'une année, un an et un jour, il aura son salut? Non, on le sait. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse arriver à cette réflexion. Il faut chercher. Mais plus que ça, on se souvient, puisque c'est un texte de la parole de Dieu et qui est venu sur mon cœur lorsque je méditais à ces choses, un homme qui a rencontré Jésus-Christ. Et il n'a pas gardé pour lui. Cet homme s'appelait Philippe. Il a été bouleversé. Et cet homme va aller chercher Nathanaël, parce qu'il ne voulait pas garder cette nouvelle pour lui. Quand on cherche, on trouve, c'est ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Peut-être que on peut commencer par chercher. Chercher un sens à ma vie. Qu'est-ce que la vérité ? On pourrait se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a ? Et même si l'on sait très bien que ces questions sont au fond de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et cet homme Philippe va aller chercher Nathanaël. Et Nathanaël va dire quelque chose de difficile. Et on va y revenir dans un instant. Et pour convaincre Nathanaël, Philippe va juste dire trois mots, deux mots importants, « viens et vois ». Parce que il faut chercher, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut venir. Et la réponse que Nathanaël, cet homme, va faire, c'est peut-être aussi une réponse que nous, on peut faire. Vous vous souvenez ce que Nathanaël a répondu ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Et ce soir, on pourrait dire, mais qui a déjà prononcé cette phrase ? Qui a pu dire, oh, tu me dis de venir, je vais pas bien, ça peut arriver, je suis en vrac dans ma vie, j'ai des souffrances, je souffre dans mon corps, dans mes pensées, ça va pas. Je vis des choses, c'est compliqué, j'essaye de trouver du réconfort, mais les autres ne peuvent pas me comprendre. Personne ne peut lire dans notre cœur si ce n'est Dieu. Alors on ne sait pas quoi faire, on peut commencer à chercher, mais à un moment donné, il faut peut-être aller un petit peu plus loin, venir pour voir, pour expérimenter, parce que qu'est-ce qu'on doit faire ? Et vous allez voir que cette phrase, je vais la répéter quelques fois au cours de ce message. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on sait qu'on ne doit pas faire des œuvres pour gagner le salut, ça c'est clair, il y a quand même un état de cœur, un état d'esprit à manifester, une démarche personnelle à avoir pour aller vers le Seigneur. Et on a pu nous en parler une fois, deux fois. Ah, est-ce que quelque chose peut venir de bon de l'Église, de ta religion, de la Bible ? Oh, Est-ce que ça peut m'aider? Et on peut arriver dans notre vie à avoir dit cela. Est-ce qu'il peut venir de bon? Est-ce que Jésus peut m'amener quelque chose de bon? Est-ce qu'il peut m'aider dans ce que je traverse? Oui, on vous le dit, il peut vous aider. Viens et vois. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je ne suis pas resté en périphérie, je ne me suis pas contenté de ce que je savais, mais j'ai voulu aller plus loin parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire pour aller mieux, pour arrêter d'être dans l'angoisse perpétuelle, pour arrêter d'être dans un mal-être constant, pour arrêter d'être dans une tristesse mélancolique qui m'amène à avoir des pensées suicidaires. Alors j'ai cherché, je veux venir. D'ailleurs, c'est l'invitation du Seigneur. On se souvient de ce qu'il va dire, c'est un texte que l'on aime citer. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et la suite, c'est quand même extraordinaire, c'est « Et je vous donnerai ». Je ne sais pas si on saisit pleinement ce verset. « Venez à moi et je vous donnerai. » « Venez à moi. » « Viens, viens à moi. » Alors bien sûr, il ne faut pas venir vers Jésus-Christ avec suffisance, en lui disant « Écoute, il faut que tu m'expliques pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai souffert, pourquoi ça va mal, tu me dois des explications. » Bien sûr, si on est dans cet état d'esprit, cette démarche, ça risque de bloquer quelque part. Mais quand même, l'invitation du Seigneur Jésus-Christ, elle est pour nous. Si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés, usés par la vie, las, si on se pose toujours des questions et on n'a jamais eu de réponse. Vous savez, il y a des personnes qui ont cette facilité pour être dans un perpétuel questionnement, se poser toujours des questions. Mais laissez-moi vous dire que arrivé à un moment donné, ça fait du bien d'avoir des réponses. Certaines réponses, parce qu'il y a des réponses qu'on n'aura jamais. Mais pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que s'il m'arrivait que je parte, où est-ce que j'irai? Est-ce que je vais connaître le feu? Et le Seigneur Jésus, dans tout ce que l'on peut vivre, dans tout ce que l'on peut penser, réfléchir, expérimenter, le seul message qu'il a, c'est ce que ces chants nous ont préparé, nous ont amené, c'est de nous dire, mais venez, ne restez pas loin, ne reste pas à chercher, il faut que tu ailles plus loin, viens à moi, parce que je pense, et je sais que vous serez d'accord avec moi, que le Seigneur Jésus quand même veut nous donner son salut. Le Seigneur Jésus peut nous donner le salut, il peut nous donner des bénédictions, mais plus que ça, il peut nous donner le pardon. Et c'est cela qu'il faut qu'on puisse expérimenter. Que devons-nous faire? Chercher, venir. Mais si on prend cette route, c'est pas mal déjà. Parce qu'on cherche, à un moment donné, on trouve. Donc on commence à prendre ce chemin. Mais il faut pas s'arrêter là. Parce que beaucoup de personnes peuvent s'arrêter là. En disant, oh, j'ai essayé, ça marche pas. Ah, j'ai voulu, mais je suis venu. Je suis venu à l'église, je suis venu à l'entretien, je suis venu à ceci, je suis venu à cela, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a quand même un détail qui fait toute son importance. C'est, vous savez, cette question, que devons-nous faire? C'est une question qu'on retrouve à de très nombreuses reprises dans la parole de Dieu. L'homme est toujours en souci de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il puisse faire pour être réconcilié, pour être bien vu, pour avoir l'amour de Dieu. Il pense, on a envie de savoir. On a envie de se dire comme ce chef de l'armée. Vous savez, ce chef de l'armée qui était là, qui s'imaginait que le prophète allait lui demander quelque chose de difficile parce que ça rassure. De pouvoir faire quelque chose, peut-être de difficile, qui sort du commun, en se disant, mais là, avec ce que j'ai fait, c'est sûr, Dieu va m'aimer. C'est sûr, ma vie va changer. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que Dieu nous aime. Tel qu'on est. Comme on est. avec tout ce qu'on a fait. Je ne sais pas si on pourrait projeter, vous savez, une diapo avec une photographie de notre cœur, tout ce qu'on a fait. Cette semaine, le mois, l'année qui a passé. Je ne sais pas si on ne serait pas honteux quelquefois. Je ne sais pas si on viendrait, si on nous disait, mais voilà, jeudi soir, on va projeter ta vie. Je ne sais pas si on viendrait. Mais le Seigneur Jésus, lui, lorsqu'il nous dit « Venez à moi », il sait ce qu'on a fait. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qu'on a traversé. Il sait tout ce qu'on a fait de mal. Mais il y a toujours ça dans son cœur. Parce que c'est l'amour, parce que c'est la justice, parce que c'est la vérité. Je veux vous donner. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Cette même question, c'est dans Jean chapitre 6. Et là, quand même, Jésus va apporter une précision. Et c'est ça qu'il faut associer au fait de chercher de venir. C'est qu'il faut croire un moment. Il faut commencer à rentrer dans la foi. Parce que c'est de croire qu'il va nous amener à demeurer dans sa parole. C'est ce qu'il dit au Jean chapitre 8. C'est de croire qu'il va nous amener à connaître la vérité. Et c'est la vérité qui va nous affranchir. C'est pas de chercher qui va nous affranchir. C'est pas de venir qui va nous affranchir. C'est pas de penser que Jésus peut être la vérité. C'est de croire. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est de croire que Jésus est venu dans ce monde pour que nous puissions être sauvés, avoir la vie éternelle. Et c'est ça le besoin vital. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ce soir? On doit pas être des super-héros. On doit pas être des très, 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 très spirituels. On doit pas franchir des choses insurmontables. On doit pas construire des bâtiments énormes. On doit venir. On doit chercher, on doit venir, on doit croire que Jésus est la vérité, que sa parole est ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour tous les jours de notre vie même. Mais il faut avoir envie de se confronter à la vérité. Parce que croire que Jésus est la vérité, croire que sa parole est la vérité, c'est croire aussi que finalement on est pécheur. Que devons-nous faire ? Essayer de masquer notre péché pour que, au cas où, devant le Seigneur, on puisse se faufiler, essayer de mettre nous-mêmes ce vêtement blanc pour qu'on puisse, au cas où, lorsque le Seigneur va venir reprendre son église, peut-être que, comme ça va être tellement rapide, on se dit peut-être qu'il va avoir du blanc, il va me prendre. Je dois être confronté à cette vérité, je dois être honnête. Je dois comprendre que je suis séparé de Dieu. Je dois comprendre que j'ai besoin d'un sauveur. Je dois comprendre que c'est Christ la solution. La solution n'est pas en moi. Merci Seigneur. La solution, elle n'est pas dans mes capacités, dans mon intelligence, dans ma manière de m'exprimer. La solution, elle est à la croix. Et ce que nous avons chanté, c'est la réalité. Parce qu'ils l'ont mené au calvaire. Pour que son sang puisse couler. Ils l'ont crucifié pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, pour qu'à cette question, nous puissions avoir enfin une réponse, une perspective, une ligne directrice. Que devons-nous faire ? Peut-être qu'il serait temps que tu ailles à la croix ce soir. Que devons-nous faire ? Peut-être qu'il serait temps que tu passes un cap ce soir. Et que tu te dises que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Que tu as besoin de comprendre que ces mains percées, ces pieds percés ont été pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, mais d'une manière personnelle. Parce que cette foule qui se posait la question, vous savez, la foule, on la retrouve tout au long du Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, c'est surprenant. La foule était frappée des miracles, la foule était stupéfaite, la foule était dans l'étonnement, la foule était ceci, la foule était cela, tout le monde, mais cette même foule est venue avec des armes pour prendre Jésus, pour le crucifier. C'est pas d'être stupéfait, c'est pas d'être interpellé à un moment donné, c'est pas de venir et d'être touché dans ton cœur qui va faire que tu es sauvé. C'est lorsque tu auras compris que Jésus, le Fils de Dieu, est venu au calvaire mourir pour toi, pour que tu puisses être lavé de tous tes péchés. pour que tu puisses comprendre que tu as besoin de Jésus-Christ, pour qu'il puisse t'apporter cette paix peut-être que tu connais pas, tu ne comprends pas quand on parle de paix, mais laisse-moi te dire que tu comprendras le jour où tu vas accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Un homme, vous savez, a posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est aussi une question, mais elle est bien cette question. Elle est bien parce que poser cette, c'est différent, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même, c'est pas pareil que de dire qu'est-ce que je dois faire, que devons-nous donc faire, que de dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Parce que poser cette question, ça sous-entend qu'on a compris qu'on était perdu. Ça sous-entend qu'on a compris qu'on a besoin d'un sauveur. Et la réponse de l'apôtre, c'est crois. Crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il est venu pour toi. Crois qu'il t'aime. Crois qu'il a tout donné pour que tu puisses avoir cette vie abondante. Crois. Mais croire, ça nous amène à la repentance. Ça nous amène à comprendre qu'on doit demander pardon pour nos péchés. Je terminerai par cette pensée quand même. Parce que cette question, vous pouvez regarder dans une concordance et allier de nombreuses fois. Et il y a un jeune homme quand même qui est venu voir Jésus et qui a posé cette question d'une manière différente encore. Que dois-je faire? Que faire? Qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire pour avoir la vie éternelle? C'est toujours cette question qui est dans le cœur de l'homme. Et Jésus va lui répondre, mais tu sais ce que dit la loi. Tu sais ce qui est écrit. Et ce jeune homme va aller plus loin parce qu'il va dire « Oui, je sais, je le fais, il faut plus. » Ce n'est pas de connaître la Bible qui fait qu'on puisse être sauvé. Ce n'est pas de connaître des versets, ce n'est pas de venir à l'église. C'est de comprendre que j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus va aller plus loin pour lui. Pour lui, il n'a pas demandé ça à tout le monde. Cette personne avait une fortune, et je dis bien, il n'a pas demandé à Zachée, par exemple, qui était riche. Il n'a pas demandé la même chose. Mais pour ce jeune homme, parce qu'il savait que c'était ça son problème, il va lui dire, il te manque une chose. Une chose. Je ne sais pas, on pourrait avoir envie que Dieu nous dise ça. Voilà, il te manque une chose pour être sauvé. C'est une réponse. Jésus n'était pas obligé de lui répondre. Il te manque une chose. Peut-être que tu sais ce qui te manque. Peut-être que tu sais ce qu'il y a dans ton cœur qui bloque l'amour du monde, l'amour de l'argent, on pourrait multiplier les exemples. C'est entre vous et Dieu, entre toi et Dieu. Et lorsque Jésus va lui répondre, la Bible nous dit qu'il devint tout triste et qu'il a été affligé de cette parole. Et je voulais terminer par cela, par cette pensée, parce que ça a été la même question. Mais ce jeune homme, lui, il va pas faire comme les autres. Il va pas prendre ce que Jésus va lui dire. Lorsqu'on lit affligé, il y a une métaphore pour ce mot. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Ce mot renvoie à quelque chose d'imagé pour qu'on comprenne vraiment ce que ce jeune homme a ressenti. La métaphore, c'est que son ciel était bleu, son ciel était net, et que lorsque Jésus va lui dire, il te manque une chose encore, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Son ciel bleu s'est vu couvrir de nuages. Ça s'est obscurci dans sa vie. C'est étonnant, parce que Jésus, c'est la lumière. Mais ce mot affligé renvoie à quelque chose d'autre, et c'est ça qui est plus grave. Vous voyez, on peut accepter la parole ou la refuser. Vous pouvez dire, oh, ce qu'il a dit, ça m'intéresse pas, ou vous pouvez l'accepter. Bien sûr, c'est ce que Dieu dit. Parce que ce mot renvoie à une notion de haine. Même, on pourrait dire littéralement, c'est « je déteste ». C'est pas seulement sa vie qui s'est couverte de nuages. C'est pas seulement « j'ai été triste, les nuages gris sont venus ». C'est plus que ça que va faire ce jeune homme. C'est qu'il va haïr la parole de Dieu. Il va détester ce que Dieu va lui dire, ce que Jésus va lui dire. Et il est parti tout triste. Laissez-moi vous dire que votre tristesse ne pourra jamais partir si vous acceptez pas la parole de Dieu. C'est impossible. Laissez-moi vous dire que si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de restauration, si vous avez besoin de pardon, vous ne pourrez jamais obtenir ces choses si vous refusez la parole de Dieu. C'est un choix. Cette même question. Que devons-nous faire ? Que dois-tu faire ce soir ? Qu'est-ce qu'il te manque ce soir pour que tu puisses comprendre que Jésus est mort pour toi et qu'il a tout donné pour que tu puisses être restauré, béni, guéri et surtout voir ton nom inscrit dans son livre de vie ? On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette invitation. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu nous rappelles ces choses pour que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, je ne sais pas ce soir dans ce lieu s'il y a des personnes qui sont encore au stade où ils recherchent quelque chose. S'il y a des personnes qui sont déjà venues à toi, mais sans croire véritablement. Ou s'il y a des personnes qui sont rentrées vraiment dans cette foi, qui ont accepté et qui leur manque encore une chose, la croix ou je ne sais pas. Mon Dieu, je te demande de bénir, de parler au cœur par ton esprit, de nous amener ensemble à accepter toute ta parole, cette vérité qui bouleverse notre vie, à accepter ton amour, que ton amour est personnel pour nous-mêmes. Seigneur, nous ne voulons pas être cette foule ou ces soldats qui étaient proches, qui se questionnaient et qui, au jour de la crucifixion, étaient là pour blasphémer. Nous voulons prendre ce que tu veux nous dire ce soir. Nous ne voulons surtout pas être comme ce jeune homme qui a été affligé par cette parole. Nous ne voulons pas avoir de la haine, détester ta parole, nous voulons l'aimer. Et je te prie, mon Dieu, si dans ce lieu quelqu'un n'a pas accepté cette parole que tu lui as déjà donnée, que ce soir il puisse te demander pardon pour cela et voir sa vie être restaurée, marcher sur ce chemin de guérison. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que nous croyons que tu es ici et que tu veux bénir, tu veux parler au cœur, Père. Merci, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.